foi et turbulence.
Bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay. Vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2019. Alors bienvenue à cette table ronde qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité toute récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. Alors, on demande à ces spécialistes de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui, parfois, nous submergent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Je vous les présente. D'abord, Mireille Dastou, doctorante en bioéthique, éthique et théologie à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Bonjour, Mireille.
Bonjour.
Participe aussi à cette table ronde Frédéric Barriot, responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi. Bonjour, Frédéric.
Bonjour.
Enfin, Foi et Turbulence accueille cette semaine Yves Casgrain, journaliste indépendant. On peut lire ses articles chez Présence et dans Le Verbe. Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors, cette semaine, il sera question du synode sur l'Amazonie, de la situation en Catalogne, mais bien évidemment, discutons d'abord des élections du 21 octobre dernier. Alors, vous étiez à l'écoute lundi soir des résultats, vous les avez vus, il y avait 338 circonscriptions au Canada, dont 78 au Québec. On a, au déclenchement de l'élection, il y a 40 jours, le Parti libéral du Canada détenait 177 sièges, le Parti conservateur 95, le Nouveau Parti démocratique 39, le Bloc québécois 10 et le Parti vert 2. Maxime Bernier était le seul député du Parti populaire du Canada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 21 octobre dernier? Ben, tous les chiffres ont été changés. Vous le savez, à l'issue du scrutin, le Parti libéral a obtenu 157 sièges, soit 20 de moins qu'à la dissolution de la Chambre. Cela le prive de la majorité et il lui en fallait 170 députés. Alors, on sait que Justin Trudeau va diriger un gouvernement minoritaire. Alors, on sait aussi que les libéraux ont fait leurs principaux gains en Ontario et ils ont mené dans 78 circonscriptions sur 121. Alors, regardons un petit peu la position des différents partis aujourd'hui, en commençant par ceux qui ont obtenu le moins. Vous le savez, le Parti populaire du Canada, lui, n'a pas obtenu un seul siège. C'était un nouveau parti avec un chef qui s'appelait Maxime Bernier. Et Maxime Bernier n'a pas réussi à obtenir un seul, son propre siège dans sa circonscription en Beauce. Frédéric Barriot, c'est la fin du Parti populaire du Canada?
Oh oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que, au fond, Maxime Bernier demeure finalement, ben voilà, il est rayé de la carte, enfin, au plan politique, ça c'est très clair. Je pense que l'explication première pour moi, c'est évident, c'est-à-dire qu'il demeure fondamentalement le néolibéral qu'il a toujours été. Il a essayé de se donner une espèce d'aura, donc, d'un horizon collectif, mais un horizon collectif qui est purement réactionnaire, hein, en instrumentalisant la question du racisme, mais très clairement, ce qui a joué contre lui, c'est
la question de l'immigration, par exemple, mais qui a débordé là-dessus, non?
Oui, mais en même temps, on voit bien que, voilà, même ça n'a pas trouvé écho, finalement, sur une frange significative. Ce qui a joué contre lui, par contre, on le sait très bien, hein, particulièrement dans sa circonscription et sa région, c'est la question de la gestion de l'offre. Mmh. Donc, le vieil économiste de l'Institut économique de Montréal, hein, voilà, avec qui nous parlait d'un gouvernement maman et tout ça, donc c'est ça qui a joué contre lui, donc finalement c'était un faux horizon collectif là, très très clairement voilà, c'était revanchard par le fait qu'il avait évidemment pas été choisi donc par sa propre formation politique, oui, le Parti conservateur.
C'était un conservateur là, qui aspirait à devenir le chef là, à la place d'Andrew Scheer là, un peu plus tôt, mais il reste que bon nombre de ses réflexions étaient centrées sur la présence, la trop grande présence du gouvernement fédéral dans les provinces. provinces, par exemple. Il voulait absolument faire en sorte que les gouvernements des provinces puissent avoir les coups des franges pour travailler dans certains domaines. Il voulait limiter l'intervention du fédéral dans les provinces. Et ça, ça n'a pas réussi à obtenir l'aval de la population, visiblement. C'est clair, non?
Oh, oui, tout à fait. Tout à fait.
Et pourtant, c'est pourtant une idée qui est répétée assez régulièrement par les autres candidats. Même le Bloc québécois a répété ça très clairement lundi soir. Il faut empêcher le fédéral d'intervenir trop régulièrement à l'intérieur des propositions des provinces. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette idée-là, en tout cas que poussait Maxime Bernier, va continuer de faire son chemin?
Mais je pense qu'il va y aller un petit peu plus loin que ça, là. C'était pas seulement de barrer la route à l'État comme tel, au fédéral, dans les plates-bandes du provincial, c'est aussi de baisser de plus en plus les taxes,
oui,
pour ne pas que l'État intervienne. C'est un État non interventionniste ou minimalement interventionniste. Alors, c'est une philosophie politique qui n'est pas très populaire ici au Canada, plus aux États-Unis. On voit ce genre de revendications-là, mais ça n'a pas passé la rampe. Mais moi, ce qui m'a surpris quand même, c'est que on a fait beaucoup de caricatures sur M. Bernier, et puis M. Bernier a quand même été solide quand même. Il faut le dire, quand il se présentait, il avait un aplomb certain.
Particulièrement lors des débats.
Particulièrement au débat, il était là. Moi, je pense que ses idées vont quand même être là. Le parti, probablement pas, il ne va pas survivre. Mais ses idées, oui. Ça, il faut faire attention aux idées parce qu'elles, on l'a vu dur.
Alors, un dernier mot, Mireille, sur Maxime Bernier. Il a quand même poussé toute la question des changements climatiques en disant que ça n'existait pas tant que ça. J'ai l'impression que personne ne l'a cru, là.
Bien, effectivement, des climato-sceptiques, on sait que ça existe, là. Mais bon, j'espère que c'est une position assez marginale.
OK. Alors, c'est en tout cas, il a récolté, en tout cas, ce genre de résultats-là lundi dernier. Allons-y du côté du NPD. Le NPD avait 39 sièges à la dissolution de la Chambre. Il n'en a plus que 24. Mais malgré tout, le NPD demeure assez fort en termes d'opposition. C'est lui qui va pouvoir permettre à M. Trudeau de garder le pouvoir d'une certaine manière. Mais il a tout perdu au Québec. Alors qu'il avait pas mal plus de sièges. Il y avait 15 sièges au Québec. Il n'en reste plus qu'un seul, celui d'Alexandre Boulris, qui était son adjoint et qui est aussi le député de Rosemont. Alors, c'est une défaite ou une victoire pour le nouveau Parti démocratique, Frédéric?
Bien, je pense que c'est clairement une défaite, là. C'est-à-dire que je pense que M. Singh a fait une très, 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 très bonne campagne. A été présent quand même beaucoup et au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec. Mais c'est très clairement, là, on pourra l'analyser, là, qu'est-ce qui a été vraiment le facteur clé, mais très clairement, c'est une défaite, là, indéniablement.
Est-ce que Jacques Metzing a encore la légitimité pour diriger son parti, Mireille Dastou?
Je crois, il me semble qu'il a fait quand même bonne figure, on l'a vu à l'occasion, un peu jouer avec son image. Je crois qu'il avait une certaine audace. Est-ce que c'est lui qui devrait rester toujours en premier plan? Peut-être qu'il aurait besoin de figures autour de lui, là, pour lui redonner une plus grande, pas crédibilité, mais je dirais le goût d'embarquer dans le parti, là, ou d'aller vers cette direction-là. Donc, peut-être qu'il aurait besoin de quelques personnes, des figures fortes autour de lui.
J'ai l'impression, Yves Casgrain, vous connaissez bien le monde de toute la question de la laïcité et tout ça. Est-ce que le fait que Jacques Metzing portait un turban, est-ce que ça l'a pas joué particulièrement au Québec, tout ça, alors qu'il y avait déjà, on le rappelle, là, il y avait 15 sièges au Québec, là, à la dissolution de la Chambre. Et là, ben, ça a été un départ concret, là, de tout le NPD du Québec. Là. Il n'y a plus d'orange, là, sauf un petit maillon faible, un village gaulois, là, qui reste à Rosemont.
Il a dit lui-même, sous-entendu lui-même dans certains de ses propos, qu'il avait rencontré ce genre de réaction négative, là, durant sa campagne. De là à dire que ça l'a vraiment contribué, Peut-être, mais je peux pas, j'ai pas une réponse claire à donner. Ce que je sais, je pense qu'ils ont été plus victimes du fait que c'est un parti fédéraliste. Et au Québec, quand il y a des causes à défendre, mais je pense qu'on s'en va plus vers le côté, le Bloc québécois. On a plus confiance en nous que des partis fédéralistes, comme tel. Parce que c'est mon analyse. C'est pas la première fois que ça arrive. Lorsqu'on vraiment veut défendre une cause, on se tourne vers le Bloc. Puis quand la cause va prendre moins d'importance, là, on va aller voir des partis plus à gauche, comme le NPD. C'est au Québec, en tout cas. Je crois que c'est comme ça qu'on va voter au fédéral.
Alors, vous pensez que Jack Metzing va quitter son poste? Ou
je crois pas, non. Je suis d'accord pour dire que le parti manque de profondeur. Il y a besoin de joueurs pour l'accompagner. Puis surtout au Québec, il faudrait avoir des lieutenants, des gens qui sont forts, même s'ils ne sont pas élus, qui soient des porte-parole, en tout cas, pour le Québec. Parce que c'est quand même un parti qui a des bonnes valeurs, qui est quand même assez proche de l'électorat québécois, d'une partie, en tout cas, de l'électorat québécois.
À l'antenne, en tout cas, de Foyer Turbulence, on a particulièrement répété depuis le début de cette saison-là que c'était probablement le seul parti qui parlait des questions sociales, qui parlait de l'habitation, de la pauvreté. Allez-y.
En se décentrant du Québec, il faut quand même regarder la carte du Canada dans son ensemble. Je pense que le moment fort de la campagne de Jack Metzing, ça a été le moment où il a mis le doigt sur un bobo quand même extrêmement important, c'est-à-dire l'accès de l'eau potable dans les communautés autochtones.
Oui.
Regardez bien la carte de l'Ouest. Vous allez voir que tout le nord de la province de la Saskatchewan, une bonne partie du nord de l'Ontario, le Nunavut, le nord de la Colombie-Britannique, c'est orange partout, ça. Donc, et oublions pas aussi que parmi les députés vraiment les plus influents, malheureusement, qui a quitté la vie politique, Roméo Saganache.
Donc,
faut quand même pas le nier. Je pense qu'il y a eu une audace, il y a vraiment un courage, mais je pense aussi que c'est une conviction sincère. Donc, visiblement, cet enjeu-là est loin donc, de nous avoir quittés. J'ai l'impression quand même que là, il y a une solidarité vraiment que les frais décoloniales vraiment développées. Et ça pourrait même devenir le fer de lance finalement de ce que pourrait être le NPD de demain.
Oui, oui. Alors allons-y maintenant sur le Bloc québécois. C'est probablement la plus grande surprise de cette élection-là. Il y a 6 mois, on pensait bien que ce parti-là allait mourir. Et là, vous avez François Blanchet qui a réussi à faire, d'une certaine manière, à remonter la pente pour le Bloc québécois. On avait 10 sièges, on avait des gens qui était même quelques mois plus tôt, qui avait quitté le Bloc québécois pour fonder un autre parti. Et là, vous avez 32 sièges. C'est le triple de sièges qu'on obtient au Québec. Alors, c'est une bonne victoire. Est-ce que c'est le Bloc québécois qui a gagné ou c'est Yves-François Blanchet, Yves Casgrain?
Un peu des deux, je pense. La personnalité a joué beaucoup. Sa personnalité a joué beaucoup. C'est un charisme tranquille, hein?
Oui.
C'est un bonhomme qui fait pas d'envolée oratoire. Il est très posé dans ses discours, mais très ferme aussi. Tu le sens solide, bien campé. Je pense que ça l'a joué beaucoup. Puis pour le Bloc québécois, je pense que des gens ont été trop vite en disant qu'il était moribond. Il y avait il y a encore une... comment je pourrais dire ça? Il a une... je cherche mes mots là ce matin, là, mais enfin, légitimité de représenter le Québec, en fait, à Ottawa. Même si c'est 10, même si c'est 20, il y aura toujours des Québécois au Québec pour dire on veut être représenté par des Québécois, on veut faire en sorte que nos droits soient protégés, que notre langue, notre culture, etc., etc. Alors, c'est un parti un peu bizarroïde, effectivement, mais c'est un parti qui va rester, je pense, tant et aussi longtemps que les Québécois vont pas se sentir protégés suffisamment par le fédéral.
On a souvent reproché au Bloc québécois d'être le parti d'une seule idée, la question de la souveraineté du Québec, et pourtant, on n'en a pas du tout parlé pendant cette campagne électorale-là.
Ça est un élément majeur aussi, il faut pas l'oublier. Je suis pas sûr que s'ils avaient fait la campagne sur l'indépendance du Québec, il y aurait eu ce même résultat. C'est un changement quand même assez majeur. Maintenant, c'est avec l'air du temps. Ça va dépendre de la population, ça va dépendre de paquet de facteurs avant qu'on... Ils vont pas devancer les choses. Alors, c'est malheureux pour les indépendantistes qui voudraient faire avancer la cause plus rapidement. Je pense qu'on va attendre longtemps. Je pense qu'ils vont naviguer tout simplement à vue. Et puis, ils vont dire, bon, ben, quand on voit que ça monte, l'idée d'indépendance, bon, on va la mousser. Mais je pense que il faut pas s'attendre à ce que le Bloc québécois fasse prendre les devants sur cette question-là.
Alors, Frédéric Barriot, est-ce que ça place pas justement le fait que le Parti québécois soit si faible au Québec, le Bloc québécois qui a obtenu une grande légitimité, ça lui donne pas le vent dans les voiles?
En fait, ce qu'on constate de manière très, très claire, c'est qu'on a sous-estimé le nationalisme. C'est-à-dire que vraiment, il y a un nationalisme vraiment qui ressurgit. Il faut quand même le situer dans la grande mouvance. On voit quand même émerger donc des partis donc de droite populiste, par exemple, qui se revendiquent beaucoup du sentiment national. Des partis de gauche aussi qui se revendiquent donc du sentiment national. Donc, le nationalisme qu'on croyait mort et moribond ressurgit. L'élection de la CAQ, c'est assez clair. Mais quel nationalisme il s'agit ici? Hein, Yves, à bon droit, vont opposer donc ce nationalisme-là avec l'idéal indépendantiste. C'est ce que je constate, en fait. Donc, c'est cette tradition donc, du nationalisme canadien-français, donc de se définir en tant que Québécois par rapport à un autre, que ce soit le fédéral, que ce soit donc défendre des valeurs. Hein. Le Bloc québécois, par définition, c'est toujours comme le parti qui doit défendre les valeurs ou défendre, mais l'indépendance là-dedans. Et quand j'entends l'indépendance, c'est pas seulement de faire du Québec un État, mais il y a aussi une volonté, donc, de rupture avec un certain modèle économique, avec un certain modèle social, avec une volonté de rupture. C'est totalement absent. Donc, pour moi, c'est clair qu'il y a un continuum assez clair, donc, autour de le nationalisme porté par la CAQ, donc, qui se cristallise au cours de quoi? Donc, autour d'une laïcité, mais une laïcité qui, à mon humble avis, je l'ai dit maintes fois à ce micro, n'en est pas une. C'est une laïcité fait finalement, donc, une laïcité repoussoire, une laïcité de Javel qui cible certains segments, donc certains groupes religieux plutôt que d'autres.
Alors, Mireille, lors de son discours, M. Yves-François Blanchet a été assez clair. Il veut participer à ce nouveau gouvernement-là. Il a l'intention de travailler selon les règles, les règles du Parlement canadien. Vous pensez que c'est la bonne façon de faire?
Moi, ce que je vois, c'est un peu comme Frédéric l'a dit, je vois une continuité en fait entre ce qui s'est passé aux élections provinciales et ce qui se passe aux élections fédérales. Ce que je vois aussi, c'est un essoufflement peut-être de ce qu'on a appelé la vague orange. Donc, on a vu là dans les analyses qu'en fait, au Québec, il y a beaucoup de pertes au niveau des sièges NPD, peut-être au profit du Bloc, là, je veux pas faire trop d'amalgame, mais on voit quand même une tendance. Moi, j'ai l'impression aussi que des fois, on traite les dossiers, mais non en profondeur. Par exemple, on va être en faveur de l'immigration, une immigration économique, mais l'immigration, si elle dérange, si elle commence à être dans une différence qu'on ne sait pas comment penser, comment intégrer, des zones sensibles. Moi, j'ai encore entendu durant la campagne des discours qui me désolent, comme de quoi, il y a seulement 1000 femmes environ au Québec qui sont touchées par la loi sur la laïcité. Alors, écoutez, c'est juste 1000 femmes. Alors,
La discrimination n'est pas si grande.
Ouais, mais en même temps, j'aurais le goût de lancer un défi à ces gens-là, un peu comme on avait vu avec des journalistes qui allaient essayer d'être sur l'aide sociale pendant quelques mois pour vivre ce que c'est.
Oui.
Alors moi, des fois, j'aurais le goût de lancer le défi à certaines personnes là, qui banalisent en disant, ben oui, on va t'envoyer, toi, à la fin de tes études, avec une nouvelle loi qui t'interdit tatatitatata, puis fais-nous un reportage, voir qu'est-ce que c'est.
Oui, oui, oui. Alors, en fait, c'est des bons défis, en tout cas, pour M. Blanchet, de ce côté-là. Vous parlez de la résurgence du nationalisme. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les provinces de l'Ouest, on a l'impression, en tout cas, qu'il y a aussi un nationalisme là, en Alberta et en Saskatchewan, là, je veux dire. Vous avez, dans les provinces de l'Ouest, là, c'est tout bleu, là. C'est bleu foncé. C'est le conservateur. Ça vous a étonné, Frédéric?
Oh, tout à fait. Tout à fait. Je sais, pour l'Alberta, ça ne m'étonne guère. Quoique, l'Alberta est beaucoup plus pluriel qu'on se l'imagine.
Oui, absolument.
Il y avait quand même 10 000 personnes avec Greta Thunberg à Edmonton. Donc, n'oublions pas que Mme Notley a été élue il n'y a pas 100 ans. Là. C'était il y a à peine 5 ans. Donc, l'Alberta est beaucoup plus pluriel qu'on s'imagine. Mais vraiment, pour moi, c'est la Saskatchewan. La Saskatchewan, c'était le fer de lance. Et le Manitoba, et particulièrement le sud de le Manitoba. Je veux dire, le mouvement ouvrier est pratiquement né pendant la grève de Winnipeg. La social-démocratie à la canadienne, c'est le CCF
c'est
de Tommy Douglas en Saskatchewan. Donc, quelque chose, visiblement, s'est produit dans ces deux provinces. provinces-là, là, qui étaient des terreaux vraiment du NPD, il faut quand même le dire, où il y a eu des gouvernements provinciaux.
Oui.
Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ben, évidemment, c'est clair que je pense que la question du pipeline, hein, et on en parlera tantôt quand on parlera de M. Trudeau, donc M. Trudeau finalement a perdu sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'évidemment, il a perdu et avec la montée des Verts et donc du mouvement écologiste, donc il a perdu une bonne partie de sa base de ce côté-là, puisqu'il a parlé des deux côtés de la bouche, comme 21 d'un côté et pipeline de l'autre.
Mm-hmm.
Mais en même temps, il faut quand même se rappeler qu'il porte le nom de son père, hein, Trudeau, et dans l'Ouest canadien, sa politique nationale de l'énergie, toute la question liée au pétrole.
On
le
s'en souvient
nom
encore.
Trudeau est toxique. Et
oui,
j'ajouterais
oui.
même que son alliance avec Rachel Notley, c'était pour défaire cette idée-là, pour montrer qu'on peut être à la fois progressiste et écologiste et commencer un début de peut-être transition écologique et se sortir tranquillement des sables bitumineux. Visiblement, ça n'a pas porté parce que je pense que ça s'est radicalisé. Et effectivement, on voit un régionalisme extrêmement fort, mais un régionalisme des prairies, maintenant clairement, ouvertement à droite.
Ouais. Il reste que lundi soir, Andrew Scheer a reconnu sa défaite, mais pourtant, c'est de loin le parti qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Là. En termes de popularité, on parle de 34 % des voix, alors que le Parti libéral en a obtenu 33 % en termes de nombre. Et en même temps, il a obtenu 121 députés, soit 26 de plus qu'à la dissolution de la Chambre des communes. C'est déjà pas mal. Mais est-ce que ça monte pas un Canada qui est complètement divisé maintenant?
C'est ce que beaucoup d'analystes disent. Hein. C'est un Canada qui est divisé. Alors, on regarde les cartes et puis c'est assez évident de voir, c'est même impressionnant de voir les partis sont vraiment distancés les uns des autres. Ça peut-être indique justement qu'il y a une crise peut-être assez profonde dans le Canada sur certaines questions, dont l'écologie, manifestement, la question du pétrole a joué énormément dans l'Ouest. C'est clair, net et précis. Puis évidemment, le fait d'avoir plus, de batailler plus pour avoir une écologie verte, c'est sûr que ce message-là n'a pas passé dans l'Ouest du tout. Eux carburent au pétrole, c'est leur ADN, donc on leur demande un sacrifice énorme si on leur dit on va cesser le pétrole, là. C'est toute la question de la transition écologique, c'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les emplois qui vont se perdre. C'est ça, on assiste à ça maintenant. Et puis, c'est sûr que je ne peux pas leur en vouloir, ça va être extrêmement dur. Là. On n'a pas encore commencé à faire la transition. Lorsqu'on va la faire réellement, c'est sûr qu'il va y avoir des cris et des pleurs. Puis, ils le savent très bien. Puis, ils vont voir du côté de ceux qui pensent comme eux, en fait.
Alors, pour Andrew Scheer, donc, une augmentation, est-ce que c'est la fin de sa carrière, par exemple, à la direction du Parti conservateur, Mireille?
Oh, ben ça, je laisse le suspens. Pour ma part, ce que je vois par rapport au Parti conservateur, comme tu as bien dit, on voit qu'il y a un nombre en grandissant de voteurs, d'électeurs qui a choisi le Parti conservateur. Moi, ce que je vois, c'est que la tactique de l'opposition fonctionne bien, dans le sens que on attaque finalement assez systématiquement le parti au pouvoir et on va chercher les points insatisfaisants. Si on revient au pipeline, je sais que les conservateurs ont aussi attaqué le fait que les libéraux tentaient que le pipeline ait certaines réglementations au niveau de la protection là, pour éviter, par exemple, des désastres écologiques. Mais là, on critique le fait que finalement, c'est lourd, ces mesures-là, etc. Donc là, on est pris là dans... comment dire, dans cette économie du pétrole, on voudrait des mesures pour prévenir, mais ça coûte. Là, il y a beaucoup d'enjeux. Je pense que l'enjeu de la transition écologique est important. Je me souviens que durant la campagne, on avait visé comme quelque chose comme 2050. qui va prendre le leadership pour développer ces technologies vertes-là, puis à l'échelle du Canada, c'est un gros dossier, là.
Oui. En tout cas, c'est certainement pas Elizabeth May, en tout cas, qui n'a obtenu que 3 sièges cette fois-ci. Il y en avait 2 la dernière fois. Mais c'est quand même pas la fin d'un parti qui est très sectoriel, là, comme le Parti vert. Juste un mot, Frédéric, là-dessus.
Et là, allons à l'autre bout du pays. Hein. C'est dans l'Atlantique, en fait, où le Parti vert a le vent en poupe.
Oui, absolument.
Rappelons-nous qu'à la dernière campagne provinciale à l'Île-du-Prince-Édouard, hein, le Parti vert a failli remporter les élections. Je pense que le chef du parti était malheureusement mort dans un accident de la voiture. Et il faut quand même regarder la carte du Nouveau-Brunswick, hein? Fredericton,
oui,
qui est passé au Parti vert. Vous avez une espèce de grosse tache bleue,
oui,
finalement, au milieu, le vert et rouge, bien entendu, les Acadiens pour lesquels le Parti libéral est une valeur refuge depuis toujours. On voit tout le littoral acadien et tout le Madawaska et de la péninsule qui est vraiment resté. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Évidemment, il y a des analyses, surtout à gauche, qui disent que le Parti vert est le parti d'une seule cause. Et donc, si on veut être c'est-à-dire à la différence, par exemple, des Verts européens, hein, qui sont plutôt nés dans l'opposition, par exemple, aux crises nucléaires, aux armements nucléaires, aux centrales nucléaires, le Parti vert est très centré. Puis je pense que cette campagne-ci a surtout porté à bon droit et à juste titre, donc, sur la transition écologique et donc l'urgence climatique. Donc, il y a peut-être, là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Comment, par exemple, est-ce qu'il y aurait une possible, vraiment, fusion à prévoir avec le parti, le NPD, par exemple? Mais clairement, la crise climatique aidant, le mouvement Greta Thunberg aidant aussi, la génération des milléniaux aidant, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. C'est pas un hasard, par ailleurs, Fredericton, qui est aussi une ville universitaire, que ce soit précisément là, donc, que le Parti vert ait fini par percer.
Oui, oui. Je vous rappelle donc trois sièges maintenant pour le Parti vert. Donc, on en passe de 2 à 3. Alors, c'est quand même une bonne augmentation de ce côté-là.
C'est une défaite pareille.
Oui, oui. Mais il reste que la question du climat a été centrale à l'intérieur de cette campagne-là, même si elle ne s'est pas accompagnée de gestes ou nécessairement de promesses. Mais il reste que c'est clair que ça a été un sujet particulièrement important. C'est un sujet aussi pour le Parti libéral qui, quand même, se termine, lui, grande campagne-là de 40 jours avec une perte et en même temps une victoire. Il passe de 177 sièges à 157. C'est donc, ça lui assure la victoire, mais pas assez pour avoir un gouvernement majoritaire. Alors, on analyse ça comment, Frédéric, cette victoire-là, d'où sa mère pour le Parti libéral?
Ah, bien, je pense que c'est une sanction. Il y a une sanction par les urnes qui est évidente, là, c'est-à-dire qu'évidemment, de là où je suis, donc plutôt à gauche, c'est clair que vraiment, ça a été reproché dès le départ, donc à Justin Trudeau, finalement, d'être un faux progressiste, d'avoir un vernis, un glaçage qui craque assez rapidement. Je l'ai évoqué tantôt, je ne reviendrai pas là-dessus, mais par exemple, le Canada est de retour, hein, au moment où il signe COP21 et dans les mois qui suivent, finalement, se lance dans l'achat d'un pipeline. Donc, déjà, bon, qui pleurait toutes les larmes de son corps à raison, par exemple, au moment de la commission de vérité de réconciliation et qui s'en va faire passer ce pipeline-là sur les terres des peuples autochtones et qui envoie la GRC quand même, là, chasser des résistants autochtones en Colombie-Britannique. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a une sanction. Il y a une sanction par les urnes de ce côté-là. Bon, on lui a reproché aussi à juste titre, hein, son manque d'écoute du Québec et des revendications du Québec. Peut-être qu'un des facteurs d'explication dans le surgissement soudain du Bloc québécois se trouve de ce côté-là. Donc, je pense que très clairement, c'est une chance peut-être là pour Justin Trudeau donc de faire une espèce d'examen de conscience en étant en minorité à ce moment-là, mais pour devoir justement être davantage à l'écoute.
Mireille Dastou, c'est sans doute une sanction, mais il reste que c'est le parti qui a présenté le plus grand nombre de femmes, qui actuellement même parmi les personnes élues, on a presque la parité hommes-femmes de ce côté-là, c'est un bon point.
Oui, mais en fait, j'ai hâte de voir dans les prochains jours quand vont être faites les nominations du Conseil des ministres, parce qu'on sait qu'en 2015, ça avait été justement un bon coup, je crois, du Parti libéral qui avait présenté un Conseil des ministres paritaire. Alors, j'ai bien hâte de voir. Il y avait effectivement un plus grand nombre de candidats du côté du Parti libéral du Canada. Il y en avait aussi du côté NPD. Moi, je continue à suivre ce dossier-là, de la parité en politique. Malheureusement, on me dit souvent que c'est pas un dossier assez gagnant. Pourtant, je crois que ça aurait pu être encore davantage être mis de l'avant pendant les élections. Je crois que ça doit continuer à être mis de l'avant. Selon les analyses que j'ai en main, là, les statistiques sont pas toutes sorties. On serait dans une lente et très lente progression, dans le sens qu'on aurait gagné quelques pourcentages de femmes à la Chambre des communes. Par contre, on est loin de la parité, donc on serait autour du 30 % là, peut-être 32-33 % donc, on est clairement dans un phénomène là continu de sous-représentativité des femmes dans les lieux de pouvoir et les lieux décisionnels. Je pense qu'il faut continuer à le souligner pour comprendre les causes et aussi pour que le souci dans les partis soit de plus en plus présent d'encourager les candidatures intéressantes du côté des femmes et comme on en discutait tout à l'heure aussi de présenter des femmes dans des circonscriptions intéressantes pour elles.
Yves Casgrain, un mot qu'a utilisé M. Justin Trudeau lundi soir en acceptant la victoire, mais aussi la défaite, ça a été l'humilité. Et donc, il accepte ça avec humilité. C'est oui. Un mot qui a résonné pour vous?
Non. Je crois pas vraiment à son humilité. Bon, nécessairement, il doit prendre acte du vote. Ça, c'est, il n'y a pas le choix. Et le fait que... il est rendu minoritaire. Sauf que, bon, à Montréal, Montréal, ça n'a pas changé. Même plus, je dirais, ça m'a surpris. Je dois vous dire que ça m'a vraiment beaucoup surpris. Hochelaga est devenu rouge après avoir été NPD. Aurait pu redevenir bloc. Mais non, au contraire, ils ont décidé de voter rouge.
Mais avec une vedette quand même aussi,
mais ça prouve que ça change beaucoup dans le quartier, ça bouge, ça évolue. C'est un ancien château fort quand même, il faut, l'oublier.
Ouais.
Ça fait juste quelques années qu'on s'aperçoit là, que les tendances évoluent et changent, mais moi ça m'a surpris, vraiment. Un petit gars qui est né dans Hochelaga Maisonneuve, ça fait mal.
Oui, oui. Alors, là, maintenant, allons-y là, pour à quoi va ressembler le Canada des 4 prochaines années. Là, vous avez un gouvernement qui est minoritaire, hein? Rappelons-le. Alors, un gouvernement qui est appelé à défendre ses différentes politiques et qui pourrait bien tomber peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 6 mois, dépendant de la position financière aussi des partis qui ne veulent pas nécessairement avoir de nouvelles élections trop rapidement. Je pense que aussi, comme électeur et électrice, on ne tient pas nécessairement à dépenser tant d'argent aussi pour de nouvelles élections, mais il reste que c'est toujours le danger d'un gouvernement minoritaire. Il doit faire des alliances, il doit travailler, chercher à travailler. On peut difficilement imaginer que le Parti libéral va obtenir beaucoup d'appui du côté du Parti conservateur pour les 4 prochaines années. Allez-y, Frédéric, là-dessus.
Sauf s'il persiste et signe dans sa volonté, d'aller pour le pipeline. Donc, à ce moment-là, évidemment, donc, effectivement, ça fait partie des possibilités, mais c'est sûr qu'évidemment, les alliances plus naturelles, ça a déjà été évoqué maintes fois, donc c'est sûr qu'entre le NPD qui aurait la balance du pouvoir, mais aussi le Bloc québécois sur certains dossiers qui seraient à l'avantage, par exemple, du Québec, il n'est pas impossible vraiment qu'on offre ça. Le Parti vert également, mais c'est clair qu'il va y avoir un antagonisme entre libéraux et conservateurs. Puis on comprend bien sûr, que si le gouvernement tombe, c'est clair que le Parti conservateur va être sûr vraiment qu'ils vont initier le vote de non-confiance à l'égard du gouvernement Trudeau, mais donc dans la conjoncture actuelle, effectivement, c'est les alliances qu'on peut voir qui seraient plus naturelles.
Oui. Alors, effectivement, si jamais le parti de Justin Trudeau veut faire une alliance avec le Bloc québécois, il va obtenir la majorité. S'il le fait avec le NPD, il va aussi obtenir la majorité. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on va plutôt privilégier les questions sociales plutôt que les questions identitaires?
Bien, je pense que les deux partis vont mettre de l'avant ça. C'est des points faciles à gagner, dans le fond, surtout le NPD. Je pense que là-dessus, il va miser très, très, très fortement là-dessus. Puis ça va être, je pense que ça va être quelque chose de très positif pour le Canada, pour le Québec, tout particulièrement.
Alors, un gouvernement qui va durer 4 ans, Mireille Dastou?
Bien, moi, en fait, j'ai suivi un peu la campagne dans la région de Québec. Il y a 2 candidats libéraux qui sont passés dans la région, Jean-Yves Duclos et Joël Lightbaum. Mm-hmm. Et on sait qu'il y a quand même eu une poussée des conservateurs depuis plusieurs élections dans la région. Et ça me semble un peu paradigmatique de ce qui va se passer parce que dans la région de Québec, justement, les candidats libéraux ont accès leur campagne sur ces dossiers un peu plus sociaux. On sait que Jean-Yves Duclos avait été impliqué dans les allocations familiales pour enfants. Joël Lightbaum a aussi mentionné durant la campagne certains investissements en logements sociaux. Alors, j'ai l'impression, effectivement, qu'on va tenter, du côté des libéraux, de présenter quelques projets plus à portée sociale.
OK. Bien, très bien. Bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on va reparler, en tout cas, de ce gouvernement là, dans les prochaines émissions de Foi et Turbulence. On verra bien si ce gouvernement-là va durer plus de 2 ans aussi. Et on verra aussi dans les prochains jours comment va fonctionner ce nouveau gouvernement-là, qui sera appelé à faire partie du Conseil des ministres et si le gouvernement Trudeau va aussi demander à des gens de l'extérieur du Sénat ou encore d'autres partis de joindre son équipe là, de travail. Alors, on en reparle et on revient tout de suite après la pause musicale. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Mireille Dastou, doctorante à l'Université Laval, Frédéric Barriot du Centre Justice et Foi et Yves Casgrain, journaliste indépendant. Alors, du Canada, on s'en va en Catalogne. 9 indépendantistes catalans ont été condamnés la semaine dernière par la Cour suprême d'Espagne à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Ces indépendantistes ont été jugés pour avoir organisé le 1er octobre 2017, en dépit de l'interdiction de la justice, un référendum d'autodétermination. Il y a eu des violences policières, il y a eu aussi la proclamation, le 27 du même mois, d'une vaine déclaration d'indépendance qui a été votée par le Parlement catalan. Décidément, ce n'est pas juste un débat d'idées là, en Catalogne qu'on voit et en Espagne, mais c'est assez musclé là, quand même, des peines d'emprisonnement jusqu'à 13 ans de prison pour avoir s'être engagé dans une question de l'autodétermination d'un pays ou d'une partie d'un pays. Allez-y, Frédéric, là-dessus, un peu d'histoire, ça va nous intéresser.
Ah, c'est clair que vu du Québec, hein, ou même, je dirais, même vu d'un parlementariste de style britannique, ça peut paraître surprenant quand même. Là, les Britanniques n'arrêtent pas de vouloir faire un nouveau référendum sur le Brexit. Ben il y a eu un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Il y a eu le mouvement, évidemment, sécessionniste irlandais au moment où l'Irlande était rattachée au Royaume-Uni. Donc, évidemment, vu de notre point de vue, ça a quelque chose de paradoxal. Donc, ce qu'on observe, évidemment, dans le cas de l'Espagne, c'est que, de fait, ça a été maintes fois pointé du doigt ces derniers temps, c'est l'héritage, au fond, de la dictature de Franco. Là. Donc, il y a une volonté, donc, évidemment, tout comme les Écossais, donc les Catalans ont jamais évidemment été la majorité des Catalans n'ont jamais été tout à fait heureux ni pleinement satisfaits d'avoir été intégrés comme ça à une Espagne qui est largement castillane. Hein, donc c'est vraiment Madrid avec vraiment un sentiment supériorité donc des Castillans à l'égard des Catalans. Mais donc il faut savoir que dans les années 30, il y avait eu une république non seulement socialiste, mais donc indépendante catalane. Donc, et ça avait été écrasé. Manu Militari, le chef donc de... on a célébré son 80e anniversaire de son assassinat. J'oublie son nom. Oui. Donc, Luis Campanis, donc, qui avait été assassiné, donc fusillé par la... Donc, Franco... au moment de la transition, quand il a remis les rênes du pouvoir au roi Juan Carlos, s'est assuré qu'on réécrive la Constitution pour de fait rendre impossible, littéralement impossible, donc toute sécession. Il y a eu, au gré des années, je pense que c'est en 2006, où on a accordé une autonomie culturelle et économique régionale aux Basques, mais aussi aux Catalans. Et évidemment, on a voulu aller plus loin. Donc, on a voulu renégocier cette entente-là en 2010 et ça a été vraiment une fin de non-recevoir parce qu'on sentait de Madrid, bien entendu, que les Catalans, évidemment, s'en allaient de plus en plus vers leur indépendance. Et là, il y a eu une radicalisation de part et d'autre. Donc, une volonté, bien entendu, un désir sincère donc d'une frange importante du peuple catalan de réaliser son indépendance. Mais et la réponse de Madrid, c'est de dire que c'est illégal. On regarde la Constitution, c'est illégal. Et donc, toute volonté sécessionniste, qui donne l'impression, vu d'ici, bien entendu, que c'est un délit d'opinion, finalement, d'organiser une convocation populaire.
Alors, un délit d'opinion, mais il reste que c'est carrément, là, c'est assez violent, quand même, là, ce genre de situation-là, où vous allez en prison pour des idées, alors que vous n'avez pas nécessairement posé des gestes là, qui étaient violents, tout ça. Mais est-ce que ça ne crée pas un malaise, en tout cas, pour le Canada ou le Québec, quand on y passe? Allez-y, Yves, qu'en serait là-dessus?
Que je voulais intervenir, c'est de voir la position du Canada et de Trudeau qui sont extrêmement mal à l'aise, qui ne veulent pas intervenir du tout, à tel point que, c'est le... J'ai toujours la misère à prononcer son nom, hein, Carlos, c'est ça? Carl
Puigdemont.
C'est ça. Qui est interdit au Canada. Ils veulent pas le faire venir. Alors, c'est vraiment... le malaise est là. Mais c'est très grave qu'un parti comme... pas le parti, mais qu'un gouvernement comme celui du Canada appuie l'Espagne. Sa volonté de d'éradiquer cette cause-là qui est normalement légitime, en fait. La Constitution, on peut la comprendre, mais je pense qu'elle doit être changée, cette Constitution-là, pour permettre tout simplement au peuple de se prononcer, tout simplement. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non.
Voilà.
Comme ici, il y a personne qui a brandi les armes, qui a amené l'armée au Québec. S'il fallait que ça arrive ici... je pense qu'il y a eu les lois des mesures de guerre en 70, puis on en parle encore, là, fait que...
Oui, alors, c'est certainement, en tout cas, un dossier à suivre. Ben, Lizzie, un dernier mot là-dessus, Mireille?
Moi, j'ai l'impression aussi qu'en fait, le dossier devrait peut-être être davantage pris en main par l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de violation du droit d'association politique ici? J'ai déjà suivi quand même quelques jugements de la Cour européenne et il me semble que c'est à ce niveau-là que le dossier devrait être pris en main.
Alors, on se rend compte, en tout cas, que le Canada n'a pas dit grand-chose sur le sujet. On était en période électorale, mais quand il s'agit de parler de l'Ukraine, par exemple, et là, on est beaucoup plus volubile, mais dans le cas de la Catalogne, on ne l'a pas fait. Un dernier mot, Frédéric.
C'est que je pense que l'Union européenne a une peur sacro-sainte, en fait, de tous les régionalismes. Hein. Donc, l'idée même de l'Europe des 25 aujourd'hui, c'est au contraire de liquéfier, si vous voulez, ces mouvements sécessionnistes-là. On disait au contraire, donc c'est unir de plus en plus de peuple. Donc, si on le fait pour la Catalogne, alors ce sera les Basques, ce sera bientôt la Bretagne, ce sera éventuellement plein d'autres peuples. Donc, je pense que l'Union européenne a une part, en fait, de ces mouvements-là.
Alors, je vous rappelle que hier, à l'Assemblée nationale du Québec, le Parti libéral du Québec a bloqué la discussion et le vote sur une motion qui déplorait la répression des élus et des militants indépendantistes en Catalogne. Alors, vous le savez, un synode sur l'Amazonie se tient jusqu'à dimanche 27 octobre, dimanche prochain, à Rome. Nous sommes probablement la seule émission à parler de ce synode-là. Et c'est fort agréable de pouvoir le faire avec nos invités aujourd'hui. Je vous rappelle que le thème de cette rencontre, qui dure 3 semaines et qui aura duré 3 semaines et qui réunit tous les évêques de cette région du monde, est « Amazonie, de nouveaux chemins pour l'Église et pour une écologie intégrale ». Ces nouveaux chemins chemins d'évangélisation doivent être pensés pour et avec le peuple de Dieu qui habite dans cette région, répète déjà depuis deux semaines les quelques 180 évêques qui participent à ce synode. On en a déjà parlé, mais je vous invite à relire le document qui s'appelle l'Instrumentum Laboris. Ça veut dire, c'est un mot latin là, qui veut dire l'instrument de travail. C'est un document que tous les participants au synode doivent lire, doivent réfléchir et qui contient non pas des propositions, mais des réflexions sur l'état de l'Amazonie, mais aussi sur l'état de l'Église en Amazonie. Le numéro 129 de cet Instrumentum Laboris est particulièrement important. On parle, par exemple, au numéro 129.1, ce sont des Autochtones qui prêchent aux Autochtones avec une profonde connaissance de leur culture et de leur langue, capables de communiquer le message de l'Évangile avec la force et l'efficacité de ceux qui ont le même langage culturel qu'eux. Alors, quand vous lancez une phrase semblable, bien, voici la deuxième phrase qui vient tout de suite après. Tout en affirmant que le célibat est un don pour l'Église, on se pose la question de savoir si pour les zones les plus reculées de la région, il ne serait pas possible de procéder à l'ordination sacerdotale de personnes aînées, préférablement autochtones, respectées et acceptées par leur communauté, même si elles ont une famille constituée et stable, dans le but de garantir la possibilité d'offrir les sacrements qui accompagnent et soutiennent la vie chrétienne. C'est pas rien quand même d'avoir lancé quelque chose comme ça. Non seulement on parle d'hommes, mais on parle aussi de femmes, et des femmes à qui on pourrait donner un nouveau rôle dans l'Église, on le verra bientôt. Allez-y Mireille là-dessus.
Oui, en fait, comme vous le soulignez, moi je trouve que c'est tout à fait pertinent d'ouvrir la discussion et je trouve que c'est de bon ton de dire qu'il y a comme un don, il y a quelque chose de beau chez les personnes qui vivent le célibat d'une certaine manière. Mais la question, en fait, c'est surtout, est-ce que ce célibat devrait être obligatoire tel qu'il a été pensé à partir du 11e, 12e et 13e siècle? Et comme vous le soulignez bien aussi, ça ouvre le dossier de la place des femmes dans l'Église, qui est un dossier quand même récurrent depuis plusieurs décennies, là. Alors, qu'il y ait des ouvertures, j'espère en fait qu'on ne gardera pas le statu quo, mais qu'on repensera les rôles. Moi, je me réfère dans ces questions-là à une chercheuse qui s'appelle Phyllis Zagano. Elle a été membre de la commission sur le diaconat des femmes dans l'Église, une commission qui a duré quand même, dont les travaux ont duré quand même deux ans. Et elle mentionnait cette semaine dans les médias, dans le National Catholic Reporter, à quel point la question se formule autour aussi du droit canon et de cette possibilité de changer certains éléments du droit canon. Je pense que c'est vers là qu'on devrait regarder.
Donc, sans changer nécessairement le dogme, mais en changeant les règles juridiques de ce côté-là. Mais c'est quand même audacieux, en tout cas, d'ouvrir ce débat-là, alors que un précédent pape avait dit « ce débat est clos, on n'en parle plus ». Et là, on utilise précisément ces termes-là. On n'a pas rien voté encore, là, Yves Casgrain, mais c'est quand même audacieux d'en parler.
Oui, effectivement, mais je l'ai déjà dit ici en ondes, c'est qu'on ne peut pas empêcher un peuple, on ne peut pas empêcher les catholiques de parler d'un sujet si ça lui tient à cœur. Mm-hmm. Et le dossier des femmes, ben, ça évolue d'année en année. Et même si le pape dit non, on n'en parle pas, ça se parlait pareil. Il y avait encore des études qui se faisaient pareil. Bref, c'est pas étonnant là, qu'on décide d'en parler de cette manière-là lors de ce synode. Ce qui, moi, m'étonne, bon, parce qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe dans ces régions-là, c'est de voir jusqu'à quel point les femmes là-bas ne semblent pas être bien considérées. La parole des femmes n'est pas écoutée. On leur confie, semble-t-il, pas beaucoup officiellement. Je dis bien officiellement, on ne leur confie pas beaucoup de tâches, alors que le document le précise, ce sont les piliers des communautés là-bas. Donc, l'Église là-bas, encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais je dirais que c'est pas seulement là-bas, mais dans plusieurs autres pays similaires, même en Occident aussi, on s'aperçoit que il y a un malaise très grand de la part de nos sœurs qui voudraient avoir une plus grande écoute de la part du Vatican, même si leur situation n'est pas du tout la même que dans les pays pauvres.
Effectivement. Et il reste que samedi prochain, les évêques vont voter. Il y a 185 évêques, 184 évêques là, qui vont voter. Ils vont voter une à une des propositions qui leur seront soumises. On ne les connaît pas encore. On ne connaît pas encore le texte officiel. Chacune de ces questions-là devrait être votée aux deux tiers pour ensuite être présentée au pape qui va décider s'il les rend publiques ou non et qui va décider s'il les intègre à l'intérieur de ce qui pourrait être une exhortation apostolique qui serait publiée au printemps prochain. C'est un long processus qu'on vient d'enclencher ici, Frédéric Barriot.
C'est un long processus, mais en même temps, rappelons-nous en 2015, lors du synode sur la famille, Monseigneur Paul-André Durocher qui avait lui-même posé la question. Donc, je pense
du
que c'est...
Du diaconat permanent.
Du diaconat permanent pour les femmes. Oui. Donc, c'est une question quand même qui est transversale. Ça veut dire qu'au sein même de l'Assemblée des évêques et des représentants des conférences épiscopales et des gens qui ont été envoyés là-bas, il y a une volonté. En même temps, n'oublions pas ce que disait aussi le pape François dans son exhortation, la joie de l'Évangile. Hein? Donc, arrêtez d'attendre de Rome, finalement, la réponse définitive. Ce qu'on est en train de voir au synode sur l'Amazonie, l'ancien archevêque du Chiapas, Monseigneur Ruiz, dans les années 70 et 80, avait précisément commencé à faire ça. Donc, c'est-à-dire ordonner des mayas, donc des diacres mayas comme ça, aussi confier de grandes responsabilités. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la revanche, finalement, de Monseigneur Ruiz. Donc, c'est que sous Jean-Paul II, ces initiatives-là, très porteuses, avaient été comme ça mises en place. Et j'ai l'impression, en fait, que, de toute manière, on observe des pratiques de cet ordre chez les catholiques de rite oriental, des prêtres mariés et aussi donc un diaconat beaucoup plus assumé. Donc j'ai l'impression que ce qui va se décider au synode sur l'Amazonie pourra avoir un effet d'entraînement sur l'Église universelle où, de toute manière, cette question-là revient. Mais encore faudra-t-il, bien entendu, que l'esprit souffle dans la bonne direction.
Oui, voilà. Mais on sait, en tout cas, qu'il va y avoir des grandes décisions qui vont être prises samedi prochain. Et là, beaucoup d'évêques du monde entier, en tout cas, observent ce qui va se passer en Amazonie. Si on décide de voter en faveur d'une proposition qui serait très locale, donc la réponse à un problème local par une réponse locale, j'ai l'impression qu'un groupe comme l'Église d'Allemagne, par exemple, voudra sans doute embarquer aussi à l'intérieur de cette réflexion-là. Un dernier mot là-dessus,
oui, Casgrain? Très rapidement, il y a quand même d'autres dossiers importants dans ce synode-là. Entre autres, le fait qu'on demande, dans ce document-là, on demande aux prêtres étrangers de vraiment apprendre la langue et de s'impliquer à l'intérieur selon les modalités de l'Église là-bas. Ce qui est très important.
Pas une pastorale de visite, mais une pastorale de présence.
De présence, exactement. Et autre chose, c'est que répondre aux besoins du peuple avant les besoins des communautés religieuses. Mmh. Ça, c'est clair. Le point 6, il faudrait donner la priorité aux besoins des populations locales plutôt qu'à ceux des congrégations religieuses. Je pense que ça en dit long sur la situation là-bas.
Alors, moi, je vous invite en tout cas à relire l'Instrumentum Laboris, si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est un document qui est assez long, 60 pages, mais qui est particulièrement bien fait, qui est en français d'ailleurs. Hein?
Oui.
Il ne faut pas penser que vous allez le lire en latin ou en italien. Alors, vous allez le lire en français. C'est sur www.synodoamazonico.va pour Vatican. Je vous rappelle donc que dimanche prochain va prendre fin ce synode sur l'Amazonie et les évêques vont voter une à une série de propositions samedi. On verra en tout cas de quel côté va aller toute la question du sacerdoce et des nouveaux ministères pour les femmes. Alors, c'est le moment de l'émission où on invite nos invités à nous parler d'une lecture, d'une activité qui s'en vient. Allez-y, Frédéric Barriot.
Le livre « Demain, l'Église, lettres des catholiques qui veulent espérer », auquel j'ai contribué.
Oui, voilà,
donc voilà, le lancement a eu lieu hier donc à la librairie Pauline de Montréal. Il y aura un deuxième lancement au Montmartre, à Québec, le 14 novembre. Donc voilà, donc des catholiques de tous les horizons, certains plus progressistes, d'autres un peu moins, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, quoi qu'il y a quand même une majorité de jeunes, donc ils vont de certaines de leurs réponses, bien entendu, à la crise que traverse l'Église, mais en même temps aussi qui tente de dégager vraiment un horizon de sens, un horizon d'espérance, donc pour vraiment l'avenir de cette Église-là en terre du Québec et ailleurs.
Alors, ça s'appelle « Demain l'Église » et oui, c'est aux éditions Novalis. Voilà. Yves Casgrain.
Autopub 2.
Oui, voilà.
Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Présence Information Religieuse est en campagne de financement. Donc, ce serait bien de contribuer à ce magnifique média, unique d'ailleurs au Québec. Voilà.
Ben, merci. Yves, allez-y, Mireille.
Oui, j'aimerais souligner le lancement d'un livre d'une professeure de l'UQAM qui s'appelle Martine Delvaux. Ça s'appelle Le Boys Club. Et on l'a vu, à Tout le monde en parle cette semaine. J'ai trouvé que l'entrevue était particulièrement intéressante. On sentait que l'auditoire, les autres participants écoutaient attentivement et devaient se resituer par rapport à ces questions que je dirais quand même sensibles. Martine Delvaux, je trouve, est une figure montante là au Québec. Beaucoup de publications, beaucoup de gens qui la suivent sur les médias sociaux. Alors, c'est à suivre.
Alors, une réflexion féministe, là.
Oui, c'est ça. En fait, question sensible, puisqu'elle s'intéresse au Boys Club, donc ces milieux où il n'y a que des hommes et où, pour X, Y, Z raisons, les femmes sont soit exclues, non invitées. Et elle s'intéresse à cette logique qui est présente, en fait, dans à peu près tous les secteurs de la société, que ce soit le sport, parfois la politique, les religions sont aussi dans certaines de ces oui, logiques-là. Alors, les universités, c'est infini, le monde des affaires, voilà.
Ben alors, merci pour cette suggestion-là et merci à nos invités, en tout cas aujourd'hui. Je vous rappelle que l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 6 novembre. On vous y donne déjà rendez-vous. La semaine prochaine, à Foi et Turbulence, un épisode en format grande entrevue avec Daniel Cadrin et Brian McDonough. Ils vont venir tous les deux parler de l'enseignement social de l'Église et présenter des témoins d'hier et d'aujourd'hui d'un christianisme engagé. Alors, merci à nos invités, Mireille Dastou, doctorante Université Laval, Yves Casgrain, journaliste indépendant, et Frédéric Barriot du Centre Justice et Foi. Merci à Mathieu Lavigne, coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la régie. À l'animation, François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.